on commence ce journal avec une enquête épidémiologique qui vient d'être ouverte dans le Jura après plusieurs cas de cancer pédiatrique.
Oui, cette enquête, elle a été déclenchée dans le Jura après le recensement de 10 enfants âgés de 6 mois à 13 ans touchés par un cancer dans 5 communes voisines, Morez, Morbier, Les Rousses, Saint-Pierre et Prémanon. Alertée par un signalement, l'Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté a donc décidé d'ouvrir une enquête épidémiologique pour déterminer avec autant de précision que possible les causes de ces cancers. On rappelle qu'il y a un mois tout juste, dans le département de l'Eure, une enquête similaire était ouverte par l'Agence Santé publique France, toujours pour des cas de cancer pédiatrique et toujours dans un périmètre restreint. Pour Catherine Hill, qui est épidémiologiste, biostatisticienne et spécialiste à l'Institut Gustave Roussy de l'étude de la fréquence et des causes du cancer, il ne faut pas attendre de miracle de cette étude.
Il n'y a pas beaucoup de cancers chez les enfants en France. On estime qu'il y en a à peu près 2200 chaque année chez les enfants et adolescents. Et il y a plus de 350 000 cancers chaque année en France. Donc 2500, c'est une toute petite partie. Ça veut dire que les cancers sont très rares chez les enfants et les adolescents. Mais quand même pas si rares qu'il ne puisse pas y avoir deux ou trois cas dans la même petite ville. Donc si chaque fois qu'on fait une alerte en disant il y a deux ou trois cas dans cette petite ville, il faut faire une enquête, on va pas s'en sortir. Et en plus, on n'a pas d'hypothèse sur des causes. Ces cancers sont des leucémies, des tumeurs cérébrales, et puis une collection de cancers solides très rares. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le signalement qu'il y a eu quelques cas? Et puis quand on commence à chercher les cas, on va agglomérer les cas dans le temps et dans l'espace. On va dire, ah mais il y a aussi ce cas-là qui est à 10 km, il y a aussi ce cas-là qui est à 23 km. Du coup, on se retrouve avec une collection de cas dont on ne sait pas quoi faire. Les parents vont être très frustrés parce qu'on leur dira... Finalement, on ne sait pas la cause. Si on veut étudier la cause des cancers dans l'enfance, il faut étudier la cause des cancers dans l'enfance à l'échelon du pays. Et encore 2200 cas, c'est pas beaucoup, donc il faut faire à l'échelon du pays pendant plusieurs années. Et bon, on fait justement des registres des cancers. On enregistre tous les cancers chez les enfants pour pouvoir faire des études. Il faut avoir une hypothèse, parce que sinon, on va poser à ces 15, 3 familles, 7 familles, 8 familles, des quantités industrielles de questions. Et bien sûr, on va trouver des coïncidences. C'est comme pour les bébés sans bras, on va trouver qu'ils ont acheté le même linoléum ou qu'ils utilisent le même antipoux ou Dieu sait quoi. Et ensuite, on ira regarder ailleurs et on s'apercevra que c'était une coïncidence, mais qu'ailleurs, il n'y a pas de problème avec cet antipoux, etc. Donc, c'est produit des faux positifs, des résultats qui sont anecdotiques et jamais confirmés.
À noter que nous avons tenté de contacter Santé publique France qui n'a pas donné suite à notre demande d'entretien.
En bref, le mystère des étoiles hypervéloces aurait été résolu.
Ces étoiles se déplacent en moyenne 10 fois plus vite que les autres étoiles de la Voie lactée et on ne savait pas pourquoi. L'étude de l'une d'entre elles, baptisée S5HVS1, qui se déplace à 6 millions de kilomètres par heure, confirme une théorie selon laquelle elle aurait été catapultée par le trou noir supermassif au centre de notre galaxie. Après s'en être un peu trop approchée, c'est la première fois que ce mécanisme de Hills est observé avec précision.
En bref, toujours pour les peintres préhistoriques, comme pour Omar Sharif d'ailleurs, les chevaux étaient une grande passion.
Et on se demande bien pourquoi. Une base de données regroupant plus de 4700 peintures paléolithiques, allant de moins 30 000 ans à moins 12 000 ans, montre qu'un animal sur 3 représenté est un cheval. Et alors que tous les autres animaux sont généralement représentés de profil, la tête tournée vers la gauche, les chevaux sont quant à eux majoritairement représentés avec la tête vers la droite. Sans parvenir à une interprétation définitive, Georges Sauvet, le responsable de l'étude, avance que les chevaux, des animaux rares en ces temps lointains, pourraient avoir une position particulière dans l'imaginaire, voire la spiritualité de nos ancêtres préhistoriques.
Cette semaine, dans le journal des sciences, il a été question de l'utilisation de CRISPR-Cas9 dans la lutte contre le cancer, de la découverte d'un mécanisme cérébral inconnu pendant le sommeil, des variations d'oxygène inexpliquées sur Mars ou encore des rayures de tigre d'Encelade, mais également dans l'actualité des sciences. Cette semaine, Antoine est en ultra bref.
Des chercheurs de l'université de Tübingen suggère que, contrairement aux clichés, la société viking aurait été plus égalitaire que ce qu'on croyait et que les femmes y auraient eu une place aussi importante que les hommes. On peut retrouver cette analyse dans la revue Economics and Human Biology. Qui n'a jamais éprouvé pitié ou dégoût ou pitié et dégoût pour un pigeon boiteux privé d'un ou plusieurs doigts? Selon une étude publiée dans la revue Biological Conservation et menée par des chercheurs du Muséum d'Histoire Naturelle, les pigeons des villes sont bien souvent amputés à cause des déchets urbains, en premier lieu par des cheveux et non pas à cause de maladies. Enfin, hier, un amendement au projet de loi Finances 2020 a été adopté discrètement et sans débat par l'Assemblée nationale. Les produits à base d'huile de palme continueront à bénéficier d'une exonération fiscale jusqu'en jusqu'en 2026, alors que cette exonération devait prendre fin le 1er janvier prochain. Ce vote fera plaisir à la firme Total, qui avait contesté en vain devant le Conseil constitutionnel l'exclusion de l'huile de palme de cette liste des biocarburants.
Et comme un vendredi sur deux, on passe au journal de la SF avec cette information, Antoine, une intelligence artificielle qui peut prédire quand vous allez mourir, mais pas exactement pourquoi.
C'est ce que rapporte une importante analyse de données réalisée par des chercheurs de Geisinger, un prestataire de soins de santé en Pennsylvanie. Les chercheurs ont en fait analysé, ont fait analyser à une intelligence artificielle les résultats d'1,77 million d'électroencéphalogrammes, soit les enregistrements de près de 400 000 patients. Les résultats de cette analyse, qui seront présentés demain au congrès de l'American Heart Association à Dallas, montrent que l'intelligence artificielle a été capable de prédire avec précision le risque pour certains patients donnés de mourir dans l'année et même de déceler des problèmes cardiaques que les cardiologues n'avaient pas encore identifiés. Écoutez Nicolas Duchâteau, il est maître de conférence à l'Université Lyon 1 et membre du laboratoire Creatis. Il travaille justement sur ces questions d'intelligence artificielle en lien avec la santé cardiovasculaire.
Ce que je trouve assez spectaculaire, c'est surtout la quantité de données qu'ils ont réussi à rassembler. Quand on regarde un peu les études médicales, on est plutôt de l'ordre du millier, voire 10 000 pour des très grosses études. Et là, c'est une étude qui est sur de l'ordre de 100 000 patients, un peu plus, et qui analyse de l'ordre du million de signaux d'ECG, électrocardiogramme. Donc c'est plutôt ça qui est assez spectaculaire. Et par ailleurs, le résultat qui est annoncé, c'est que la prédiction de la survie est bien meilleure que ce que font les experts avec des attributs qui sont extraits à partir de ces signaux. Alors ce que ça laisse augurer, ces études, c'est que premièrement, ce sont des choses qui vont exploser en termes de résultats, c'est-à-dire qu'on a maintenant accès à des capacités de calcul qui sont bien supérieures à ce qu'on avait avant, des bases de données de plus en plus grandes et structurées, donc ça ne peut qu'accélérer le recours à ces techniques et donc la prédiction d'événements qu'on n'arrivait pas à réaliser avant. Après, il y a un autre penchant, c'est qu'on n'arrive pas encore bien à faire. Ça, c'est peut-être un petit peu le revers de la médaille, c'est qu'on produit des résultats qu'on n'est pas encore tout à fait capable d'expliquer. C'est-à-dire que ces techniques, les réseaux de neurones, sont un peu mystérieux encore. On est assez confiant des résultats en termes de prédiction, mais tout ce qui touche à l'interprétabilité, le retour vers les cliniciens pour qu'ils comprennent un petit peu ce qui s'est passé, ça laisse augurer aussi pas mal de recherches là-dessus pour la suite. Il y a quand même plusieurs barrières à franchir qui sont un peu celles du savoir clinique. Pour l'instant, les machines, elles sont assez bêtes, binaires, on va dire. Ce sont des modèles. Et le savoir clinique, lui, c'est beaucoup de données, beaucoup de savoir, beaucoup d'incertitudes aussi sur les résultats et une capacité de généralisation que n'ont pour l'instant pas les machines.
En bref, des chercheurs ont mis au point un hologramme qui ressemble fort à ce qu'on trouve dans Star Wars.
Il s'agit d'une prouesse réalisée par des chercheurs britanniques qui ont mis au point un système holographique tactile. Les résultats parus dans Nature montrent comment ce système de visualisation holographique en 3D du son a pu être réalisé. La recette est presque simple. 512 haut-parleurs miniatures disposés de façon à former un cube creux émettent des ultrasons capables de produire des courants d'air à basse pression et permettent à une perle de polystyrène de léviter. Est-ce que tout le monde suit?
Moi, bon, ça va.
On suit.
On va mettre aussi la petite vidéo sur le
traiteur. Ensuite, en manipulant les ultrasons, les chercheurs sont capables de faire bouger très rapidement dans l'espace la petite perle qui, éclairée avec des lumières colorées, dessine un objet holographique comme un papillon ou un smiley. Il y a mieux, on peut toucher entre guillemets l'hologramme et influencer ses mouvements grâce au courant d'air qu'on provoque.
En bref, Disney+, la chaîne concurrente de Netflix, vient d'être lancée aux États-Unis et bat déjà des records.
Elle a été lancée en grande pompe ce mardi 12 novembre avec The Mandalorian, une série basée sur l'univers de Star Wars. La plateforme fait déjà trembler le marché de la vidéo à la demande et en à peine 4 jours, plus de 10 millions de personnes se sont abonnées au service outre-Atlantique. Un chiffre qu'il faut sans doute tempérer, Disney+ propose une offre gratuite pendant 7 jours. On en reparlera quand il faudra payer.
Et Amazon a officiellement commandé l'adaptation de Périphérique de William Gibson.
À ce jour, Amazon n'a pas révélé quand la production de The Peripheral, Périphérique, débuterait, ni quand elle serait présentée sur la plateforme de streaming. Ce qu'on sait en revanche et qui peut faire saliver certaines personnes, c'est que ce sont Scott Smith, Jonathan Nolan et Lisa Joy, les maîtres d'œuvre de la série Westworld, qui seront en charge de la production de cette adaptation.
Westworld, dont on attend avec impatience la troisième troisième saison. Et pour finir, comme chaque semaine, par notre rubrique de Science Improba, vous l'avez peut-être vu passer sur vos réseaux sociaux cette semaine, cette très jolie et adorable vidéo d'un beluga qui est beaucoup moins drôle que ce qu'on peut voir à l'écran.
Et oui, les internautes se sont émus cette semaine de cette vidéo d'un beluga qui joue à rapporter un ballon de rugby à des hommes à bord d'un bateau. Mais comme toujours, quand on voit des animaux mignons sur Internet faire des choses qu'ils ne sont pas censés faire, il faut se méfier. Pour Ferris Jabre, journaliste pour la revue Scientific American et pour le New York Times Magazine, ce beluga s'appellerait Vladimir et se serait échappé de captivité. Jusqu'ici, tout va presque bien, mais il y a plus. S'il s'agit bien de Vladimir et non pas Vladimir, ce cétacé aurait déjà été aperçu en avril 2019 au nord de la Norvège avec un harnais sur lequel on pouvait lire « Équipement de Saint-Pétersbourg ». Terreur sur les internets, l'adorable beluga se serait en fait échappé d'un programme militaire russe et l'espion viendrait bien du froid. D'autres théories affirment que le beluga se serait tout simplement évadé d'un parc aquatique. On retiendra surtout que l'animal qui a été suivi pendant une semaine par des scientifiques et qui ne s'est plus chassé aurait pris l'habitude d'être nourri par des hommes et qu'il serait aujourd'hui incapable de trouver seul de quoi manger. Est-ce que ça mérite un like ?
Non, on ne like pas le beluga espion. Enfin, on aime bien l'histoire quand même, mais oui, c'est un peu triste.